Bonjour. Au fil de ses livres, Corinne Peluchon, dont l'endurance dans l'analyse de fond est une des qualités remarquables, note dans Le Monde le philosophe Roger Paul Droit. Corinne Peluchon donc réfléchit à notre époque et envisage une évolution des esprits en quelque sorte qui placerait la considération au cœur de tout. Dans son dernier ouvrage en date, elle nous propose en quelque sorte une actualisation de la philosophie des Lumières, philosophie qu'elle étudie depuis un moment. N'a-t-elle pas écrit en 2005 un essai sur la crise de la rationalité contemporaine ? Ce livre, qui, avec elle, va être au cœur de cette nouvelle diffusion de ce numéro d'idées, est, dans son travail, la fin d'un cycle et le début d'une autre réflexion. Il s'intitule « Les Lumières à l'âge du vivant ». Pour penser les Lumières aujourd'hui, écrit-elle, il importe de réfléchir au sens que peuvent avoir dans le contexte actuel l'universalisme, l'idée de l'unité du genre humain, l'émancipation individuelle ainsi que l'organisation de la société sur les principes de liberté et d'égalité. Nous allons voir cela dans cette rediffusion d'idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez écouter et télécharger sur le site de la radio ou sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez également vous y abonner. Bonjour Corinne Peluchon.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver. Nous vous suivons au fil de vos essais philosophiques. Vous êtes philosophe et professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel. Nous avons parlé dans cette émission, idée des nourritures, la philosophie du corps politique en 2015, livre publié au Seuil, du manifeste animaliste éthique de la considération également en 2018 et pour comprendre Lévinas, un philosophe pour notre temps. Et nous avions parlé durant le confinement du printemps de l'année dernière, de votre sélection de textes qui s'intitulait « Réparons le monde », publié en Rivage Poche en 2020. Nous sommes fidèles, vous le voyez.
Oui, merci.
Corinne Peluchon, quand Roger Paul Droit dit que vous êtes une philosophe d'endurance, je trouve qu'il a mille fois raison.
Bah oui, j'essaie. J'essaie de creuser mon sillon. Et puis, je m'attaque à des sujets qui, je crois, ont du sens aujourd'hui.
Oui.
La liberté, ce que ça veut dire, l'universalisme, comment le repenser aujourd'hui pour construire un projet commun dans le contexte écologique, sanitaire, social, économique actuel.
Oui. Votre réflexion est éclatée, mais elle porte sur ces lumières, sur cette question de la raison, et avec une attention particulière aux animaux. On en avait déjà parlé donc dans cette émission, à la considération animale.
Bah, c'est-à-dire que le rapport aux animaux est un coup de projecteur sur notre modèle de développement qui est fondé sur une exploitation illimitée des ressources, des autres vivants. Et ici, j'interroge ce modèle de développement en pensant la matrice qui l'organise, ce que j'appelle le schème, l'ensemble des choix sociaux, économiques, des représentations conscientes et inconscientes qui expliquent que finalement notre société est régie par la domination, qui est une domination de la nature à l'extérieur de soi, écosystème vivant, mais aussi des autres humains et de soi, c'est-à-dire qu'elle est liée à une amputation de soi, une répression de notre commune vulnérabilité et moi j'invite à extirper comme une écharpe dans la chair ce vice de la civilisation, cette coupure radicale nature-raison qui ouvrait un cycle maudit, en tout cas, qui n'a même pas préservé les lumières du XVIIIe siècle d'une logique destructrice. Et ça ne veut pas dire que les lumières soient coupables, mais il y a, selon moi, dans la genèse du nihilisme que j'essaie de faire pour expliquer pourquoi nous en sommes arrivés à cette inversion du progrès en régression, eh bien, il y a quand même cette faute qu'on peut appeler dualisme, nature-culture et séparation radicale des humains et des animaux.
Corinne Peluchon, il faut se poser la vieille question, qu'est-ce que les Lumières, finalement, comme Kant ou comme Foucault aussi, hein, vous y faites référence dans le livre. Nous avons consacré une émission récemment à Diderot, qui mettait au cœur de sa réflexion la raison. Qu'est-ce que les Lumières, au fond ?
Alors, les Lumières, dans leur diversité, parce que Diderot n'est pas trop dualiste, justement.
Et nous avons parlé avec Diderot des Lumières françaises. Il faut préciser qu'il y a aussi des Lumières anglaises, des Lumières allemandes,
évidemment. Et écossaises, absolument, oui. Et puis aussi japonaises, africaines, etc. Donc, les Lumières sont moins un continent, ou même une époque, qu'une attitude, disait Michel Foucault, un ethos caractérisé par le fait d'avoir un rapport critique au présent. Et cette réflexivité-là nous permet, à chaque époque, de définir les tâches spécifiques que les intellectuels peuvent avoir afin de renouer le lien entre la théorie et la pratique et d'orienter le devenir. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que notre liberté est la clé d'un changement de société et que l'avenir n'est pas clos à l'avance, qu'il n'y a pas de fatalisme. Ça, c'est le premier point. Et cette attitude a des conséquences sur l'organisation sociale et politique. Et les piliers des Lumières sont l'autonomie, c'est-à-dire le fait qu'on institue le sens, que c'est pas la tradition, les coutumes qui définissent la société, mais la liberté a du sens. Deux, c'est l'organisation de la société sur l'égalité, le vœu d'une société d'égaux contre une société hiérarchique et fondée sur des essentialismes qui justifieraient l'asservissement d'une partie de l'humanité par une autre. Trois, l'unité du genre humain. Les droits de l'homme la manifestent. Quatre, une certaine rationalité dont moi, justement, j'essaie de la sauver parce qu'elle est devenue, malheureusement, au XIXe siècle, une rationalité instrumentale qui nous coupe du monde de la vie, disait Husserl, et qui nous envoie dans le mur, qui devient irrationnelle.
Alors, dans votre livre « Les Lumières à l'âge du vivant », qui est un livre profond, comme les précédents d'ailleurs, vous précisez bien qu'en un sens, qu'on ne peut pas parler des Lumières sans parler des anti-Lumières qui vont avec, qui ont toujours accompagné, en fait, les Lumières.
Absolument, elles les ont accompagnées dès le début. Hein. Des gens comme Joseph de Maistre, qui était contre-révolutionnaire, appartient aux anti-Lumières. Mais je dirais, comme le grand historien regretté, décédé il y a peu de temps, Zev Sternel...
Ah oui, qui était venu dans cette émission, il y a quelques années, nous parler des anti-Lumières à partir de son œuvre, de son travail.
Que j'admirais beaucoup. Sternel, Eh bien, il parle des Lumières et des anti-Lumières comme de structures intellectuelles. C'est-à-dire qu'ils sont liés à des socles, à un projet de société et qui traverse justement, depuis le XVIIIe siècle en tout cas, nos époques. Et les anti-lumières se définissent par le rejet des droits de l'homme, le rejet de l'unité du genre humain et préconisent souvent des communautés particulières et même un nationalisme fondé parfois sur des préjugés racistes. Elles sont souvent essentialistes, voulant assigner les femmes à justement leur genre et à des places particulières. Et leur haine de la raison est une arme de guerre pour s'opposer aux Lumières, à toute émancipation, à toute idée d'une émancipation par la raison, mais aussi sont des armes de guerre pour fonder une société hiérarchique, voire théocratique. Et donc, les anti-Lumières ne sont pas, ne vitupèrent pas contre les Lumières dans les lieux feutrés des salons, mais elles sont tonitruantes et elles ont un projet de société extrêmement, qui peut conduire à une sorte de nouveau fascisme. Et elles se sont illustrées par le nazisme, hein, par exemple. Et donc, du coup, je crois que les Lumières se définissent toujours par un combat contre aussi un certain nombre une certaine société. Au XVIIIe siècle, c'était contre la théocratie, contre l'Ancien Régime. Aujourd'hui, je crois que les anti-Lumières sont vraiment un projet de société qui rive l'individu à ses appartenances. Ce projet-là, qui prend des visages nouveaux, moi j'y vois aussi le projet transhumaniste, qui peut en être une expression, je pense qu'il est important de l'identifier et de se donner les moyens de le combattre.
Alors, dans votre livre, Corinne Pelluchon, vous analysez ce que pourraient être ces Lumières à l'âge du vivant, car il faut bien le souligner, le XXe siècle a marqué l'effacement des Lumières. Justement.
Oui, tout à fait. Le XXe siècle, avec Auschwitz, mais déjà la Première Guerre mondiale, Hiroshima, des techniques qui peuvent nous détruire, qui nous échappent, les goulags, totalitarisme donc, et puis les crimes coloniaux, signent l'échec du projet, en tout cas de l'espoir d'un progrès général par la rationalité. La rationalité, la raison devient folle avec ces manifestations-là. Et aussi, il y a une éclipse des Lumières parce que l'idéal universaliste est aussi attaqué pour de bonnes raisons. Les postmodernes, féministes et postcoloniaux, vont pointer le faux universalisme des philosophes des Lumières qui s'abritent derrière des principes soi-disant généraux pour imposer un style de vie occidental et donc être impérialiste et justifier parfois le colonialisme. Donc du coup, il y a une éclipse des Lumières liée aux tragédies du XXe siècle et à une autocritique, pour ainsi dire, des Lumières. Et je crois qu'aujourd'hui, alors qu'il s'agit sans hésiter de combattre les anti-Lumières, il faut prendre au sérieux les critiques que les postmodernes ont adressées aux anciennes lumières, afin justement de ne pas tomber dans leur piège, puisqu'elles n'ont pas été capables de tenir les promesses d'une société vraiment inclusive, en oubliant les femmes, les minorités, et promouvoir un universalisme de l'altérité, un universalisme non pas aveugle aux différences, mais au contraire, qui prend en compte la condition charnelle et terrestre, le lien aux autres vivants et aux autres humains, et qui justement soit pas arrogant ni hégémonique, mais soit lié à ce que j'appelle des lumières latérales. Je prends le mot à Merleau-Ponty, qui montre que c'est souvent des points de vue divers. Il y a une planète, une seule condition humaine et une diversité des cultures et même des existences animales, une diversité des formes de vie.
Pense par toi-même, disent les Lumières, préconisent les Lumières, en tout cas celles du XVIIIe siècle en France. Cette raison a été dévoyée, vous venez de le souligner, Corinne Peluchon. Vous écrivez « La raison est devenue folle dans une organisation sociale particulière qui l'a poussée à s'avilir ». Toute la question est là. Il y a eu un dévoiement de cette notion de raison.
Oui, et alors moi je dirais qu'il y a deux origines de ce dévoiement de la raison. Il y en a eu un qui est postérieur aux Lumières du XVIIIe siècle, qui est pour moi au XIXe siècle, et surtout au XXe, c'est la raison se coupe de l'universel. Alors que chez Kant, chez Rousseau, elle est l'organe de l'universel, ce qui me permet d'accéder à ce que nous avons en commun, elle devient l'instrument du moi dans ce qu'il a de particulier, et surtout elle devient un instrument, une fonction d'efficacité. Elle devient calcul, instrument d'exploitation. Et ce faisant, elle donne la naissance à un instrumentalisme, à une rationalité instrumentale qui va entraîner la bureaucratisation, la quantification, la réification de tout. Et il y a selon moi, donc c'est un dévoiement du rationalisme, et il s'agit aujourd'hui justement de faire en sorte que on ne tombe pas dans cela. Et Husserl le disait déjà au XXe siècle, enfin 1935, hein, il faut, les sciences comportent un moment réductionniste, il faut souvent réduire le vivant à sa composition physico-chimique, mais pour le manipuler, mais il ne faut pas penser que c'est ça la réalité, sinon on devient dogmatique. Et il y a selon moi une deuxième amputation de la raison qui est plus originaire et dont je parlais tout à l'heure et qui fait peut-être corps avec l'Occident et qui est liée à ce dualisme nature-culture, à cette séparation civilisation-nature et peut-être à ce rejet ou refoulement de la vulnérabilité que nous devons regarder en face, car il a ouvert un cycle maudit et responsable sans doute aujourd'hui de la dégradation de l'environnement et de l'assujettissement des autres vivants et peut-être d'une culture de mort.
Et pour analyser ce dévoiement de la raison, Corinne Peluchon, vous faites un détour par Francfort en Allemagne, un pays que vous aimez beaucoup, et vous parlez précisément de l'analyse d'Adorno et d'Horkheimer qui ont justement analysé ce qu'on peut appeler les maladies de la raison.
Alors Adorno et Horkheimer, qui dans les années 40 écrivent ce magnifique texte « Dialectique de la raison »,« Dialectique des Lumières », c'est traduit par « Dialectique de la raison » ou « Pensée du progrès » en français, ils l'écrivent à un moment où ils sont assiégés par la catastrophe, hein, par la Shoah. C'est un texte très pessimiste et c'est vrai qu'ils voient parfois que le ver est dans le fruit, quoi. Ils attaquent les Lumières. Il y a parfois quelques phrases où on voit émerger l'espoir qu'on puisse sortir la raison des raies de la domination, de cette triple domination de la nature à l'extérieur et à l'intérieur de soi et des autres. Mais malheureusement, ils sont souvent plutôt dans une sorte de désespoir. Néanmoins, ce texte est magnifique parce que il y a aussi une généalogie du nihilisme et la raison, ils en ont pas une définition transhistorique. Ils montrent bien que avec le capitalisme tardif, cette raison est devenue un instrument d'exploitation. Et ça, c'est très important de voir que vraiment, elle s'est coupée de sa dimension morale qu'elle avait chez les Grecs, qu'elle avait même, je disais tout à l'heure, chez les hommes des Lumières du XVIIIe siècle. Donc du coup, comment on en est arrivé là? Mais c'est un texte absolument extraordinaire, très difficile, hein. Plein de tensions.
C'est important, Corinne Peluchon, car on associe systématiquement, quasi systématiquement, la raison avec le matérialisme.
Oui, on a bien tort. D'ailleurs, en allemand, Vernunft, raison, c'est pas Verstand, entendement, c'est le même étymologie que Vernehmen, qui veut dire recevoir. La raison n'est pas simplement calcul, instrument de mesure. Elle est, chez Kant, elle est pratique en même temps, c'est-à-dire qu'elle est ce qui me permet d'avoir la mesure du bien et du mal, puisque une action que je peux universaliser, que je peux vouloir que les autres la fassent, indique que je suis dans le bien. Donc, du coup, on a oublié que la raison raison n'était pas seulement instrumentale. Et c'est justement cela qu'il faut rappeler. Et la raison est interrogation. Chez Socrate, finalement, qui inaugure, qui est le premier homme des Lumières, finalement, eh bien, c'est au XVIIIe siècle que ce projet d'émancipation, cette idée de la liberté et du fait qu'on rompt la clôture du sens, comme dit Castoriadis, hein, qui souligne le fait que la démocratie, la liberté naissent ensemble. Que signifie, hein, c'est l'idée qu'on est à la source du sens. Eh bien, chez Socrate, il y a déjà cette idée que par la liberté, la raison, je peux m'affranchir de la tradition et de ce qui, dans les traditions, est un joug. Donc, et ça, la raison est l'organe, pour ainsi dire, de cette émancipation-là.
Et vous ajoutez depuis des années, au fil de vos livres, Corinne Peluchon, ce concept, cette idée de considération dans cette notion de raison.
Oui, alors.
Les deux n'étant pas incompatibles.
Absolument. C'est-à-dire que dans les deux catégories majeures de ce livre, Les Lumières à l'âge du vivant, c'est la notion de schème, donc la matrice, le principe d'organisation d'une société, cette structure dynamique qui explique que finalement l'agriculture, l'élevage, le rapport aux autres, le pouvoir, la politique sont comme des guerres, car dans notre société, c'est le schème de la domination qui nous régit et qui colonise notre imaginaire, explique certains de nos désirs, la compétition effrénée, y compris dans la République des Lettres. Et la deuxième catégorie, c'est l'époque civilisationnelle. C'est-à-dire l'époque, je prends ça au père de la phénoménologie, où sert la remise en question de mes préjugés, de mes représentations que je tiens à distance afin de revenir aux choses elles-mêmes, à la manière dont elles me sont données pour voir quel est le sens de, alors moi, de l'agriculture, de l'élevage, etc., et d'examiner, de faire une sorte d'inventaire sur ce que nous faisons pour voir si ça a du sens ou pas. Et j'essaie de le placer à un niveau civilisationnel, puisque c'est le niveau auquel je me place dans ce livre. Et du coup, ces deux notions servent à déraciner ce vice de notre civilisation qui explique la liquidation de la civilisation, qui explique qu'on aille dans le mur et peut-être que ça entraîne la destruction du monde commun et de nous-mêmes avec les catastrophes écologiques. Et l'idée, c'est de destituer ce schème de la domination pour que la considération apprenne les esprits, les cœurs et la civilisation. Et ça veut dire quoi, la considération? Ça veut dire que je suis capable d'accorder une place à tout autre, humain et non humain, et pour cela, ça suppose que je considère que je ne suis pas un empire dans un empire, un tyran, et que j'appartiens à un monde plus vieux et plus vaste que moi, composé des générations passées, présentes, futures, du patrimoine naturel et culturel, et que cela donne une épaisseur à mon existence. Autrement dit, la préservation de la créativité, de la liberté, et la préservation, voire le renouvellement du monde commun, deviennent les principaux critères de nos choix pour réorienter même les technologies. Car on ne le dit pas assez, mais entre les hommes des Lumières et nous, il y a eu non seulement des techniques, évidemment, qui ont un impact sur les humains, les écosystèmes énormes, mais aussi les techniques au XVIIIe siècle sont adossées à un projet d'émancipation. Or, aujourd'hui, elles nous échappent. Elles ne les font pas pour servir le bien commun et la liberté. Elles nous échappent. C'est souvent le marché, l'économie, l'économisme qui dirige les progrès techniques. Donc, il faut réorienter, vous voyez, les technologies vers des fins civilisationnelles. Et le schème de la considération, évidemment, comment il peut imprégner les esprits, les structures, bon, j'essaie de l'expliquer, c'est pas évident.
C'est pas évident, donc c'est très complexe, c'est un sujet ô combien complexe. Et vous faites, pour l'aborder, vous y avez fait référence à l'instant, Corinne Peluchon, un détour par la phénoménologie. Il faut expliquer, rappeler ce qu'est cette phénoménologie. D'ailleurs, il y a Husserl, il y a Merleau-Ponty, il y en a...
Alors, je dirais, bon, elle est fondée au tout début du XXe siècle par un philosophe allemand, Edmond Husserl, qui meurt en 1938. Hein, et c'est à la fois une méthode et une expérience. C'est l'idée qu'il n'y a pas une vérité en soi et que le monde n'est pas comme un objet que je représenterais, comme si la vérité était l'adéquation entre ma pensée et le réel, mais que les choses, j'en connais le sens revenant aux actes par lesquels ils me sont donnés ou pas. Et ça fera dire à Lévinas, par exemple, qu'autrui, il m'est donné, mais pas tout à fait. Il m'échappe. Je ne constitue pas, j'en fais jamais le tour. Et que cet échec de ma constitution, signale que c'est pas un objet comme les autres, que c'est pas un objet du tout, et qu'il n'est pas réductible même à l'idée d'humanité, qu'il a un visage, il est chaque fois unique, et il déchire le sensible.
Donc la phénoménologie consiste à essayer de séparer les différentes strates
Oui, alors il y a deux opérations majeures. Ouais. La première, c'est l'époquer, la suspension de ces habitudes. Moi, je dis souvent, c'est on a tous des lunettes qui nous font voir le monde. Il s'agit de les enlever pour voir que ce n'était que des représentations partielles et partiales. Et ça, c'est l'époquer. Et ensuite, il y a la réduction, c'est-à-dire le retour aux actes de conscience par lesquels les choses me sont données ou pas. Et la manière dont elles me sont données me renseigne sur leur sens et sur le rapport que je peux avoir avec elles. C'est d'ailleurs que la phénoménologie est une méthode qui me permet d'habiter le monde autrement, de rafraîchir mon regard sur les choses, parce que bien souvent, eh bien, je les vois à travers les préjugés, les modèles, même mathématiques, ou je les vois à travers des lunettes qui sont préfabriquées ou qui sont. Donc, du coup, il s'agit donc de ce qu'il appelle revenir aux choses elles-mêmes. Et c'est pour éviter à la fois une sorte d'illusion d'objectivité parfaite et de subjectivisme où finalement les choses seraient relatives à mon point de vue. Non, il y a quand même une visée d'essence ou de connaissance. Et la phénoménologie, elle a beaucoup évolué, notamment avec Lévinas et Merleau-Ponty, et cette évolution se caractérise par le fait qu'on a réhabilité vraiment le sensible, l'importance de la perception du corps. Et le corps, évidemment, pour moi, est au cœur de mon travail.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous recourez à cette phénoménologie.
Tout à fait, oui. Parce que le corps, évidemment, c'est la passivité, la fatigue, la mortalité. Je ne constitue pas, ça m'arrive, ou quand je vieillis. Hein. Et puis, c'est aussi les aliments, le plaisir, ce dont je vis, les paysages, l'air, le milieu, je baigne dedans, je ne le constitue pas, ce ne sont pas des objets. Donc, du coup, et le corps, c'est vraiment une manière de pointer, de prendre au sérieux la corporéité du sujet. C'est vraiment jeter une lumière sur l'éthique et la politique qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait avant, c'était chez Hobbes ou même Rawls, c'est-à-dire que l'éthique n'est pas seulement bornée aux relations intersubjectives avec les autres humains, mais dès que je mange ou dès que j'habite quelque part, je cohabite avec les autres et donc je dis si je leur fais une place au sein de mon existence. Et de même, la justice concerne pas seulement les relations aux autres, mais le rapport à l'usage des terres, l'usage des nourritures ou des ressources et le rapport aux animaux pose des questions de justice et nous implique de nous limiter, de nous auto-limiter. Donc du coup, le corps, c'est une manière de rafraîchir la condition humaine, quand on le prend au sérieux, et de faire surgir un sujet toujours relationnel et qui n'est jamais seul au monde, ne serait-ce que parce qu'il est né et qu'il a le trouble de plusieurs existences derrière la sienne, comme le disait un autre phénoménologue, Paul Ricoeur, très grand philosophe.
Corinne Pelluchon, parler du sujet, ça ne veut pas dire parler de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le sujet de l'égotisme ou l'égoïsme ou de l'ego, tout simplement.
Merci de me poser de me rappeler cela, bien sûr. Et c'est la condition humaine. En fait, ce que la phénoménologie, qui est à la fois une méthode pour penser les choses dans leur vérité propre, hein, pas une vérité absolue, mais une vérité propre, eh bien, la phénoménologie permet de dégager des structures de l'existence, de penser la condition humaine. Et on voit, quand on parle de condition humaine, c'est pas la nature humaine de manière essentialiste, figée, mais c'est pas non plus... y a une unité du genre humain, puisque nous avons tous une condition terrestre, charnelle, corporelle, même si nous avons des sociétés différentes, des appartenances ethniques, des appartenances religieuses différentes.
Il s'agit d'une autonomie, c'est un mot-clé pour comprendre votre raisonnement, ouvert sur l'autre.
Oui, tout à fait, il s'agit d'une réflexion sur la diversité, l'altérité, l'hétérogénéité des accès au réel. Et d'ailleurs, Merleau-Ponty allait jusqu'à reconnaître aux animaux, dans les années 40, en structure du comportement, une autre existence. Il les appelait d'autres existences, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres vivants cloués, rivés à l'instinct.
Alors, il faut retrouver en quelque sorte l'autonomie, qui est la notion, dites-vous, soulignez-vous, cardinale des Lumières, cette notion d'autonomie.
Alors, quelle autonomie? C'est toujours pareil, là, dans le travail que j'essaie de faire, je reprends les piliers des Lumières, mais l'autonomie, je la reconfigure. Au lieu d'être pensée comme à la lumière de l'indépendance, d'un humain qui serait coupé des autres, qui serait un self-made man, eh bien, je la pense à la lumière de la vulnérabilité, de la fragilité corporelle, du besoin de soins, mais aussi à la lumière de la responsabilité. Une responsabilité hyperbolique, car elle concerne mon rapport aux autres humains actuels, mais aussi aux animaux et à tous ceux et celles, humains et non humains, dont la vie est impactée par mes modes de vie. Et les technologies actuelles ont changé la structure de notre responsabilité, puisque nous pouvons avoir, sans le vouloir, nous pouvons leur infliger à des êtres que nous ne connaissons pas ou qui ne sont pas encore nés, des dommages importants en raison de nos modes de vie et des technologies comme la bombe atomique. Donc du coup, voilà, l'autonomie est reconfigurée et à la lumière de la vulnérabilité de la responsabilité. Et puis c'est une autonomie que j'appelle retrouvée. Parce que l'émancipation, ça suppose un choc, une rupture avec les normes existantes, parce qu'on a souffert d'un système et qui vous envoie dans le mur et qui vous rend très malheureux. C'est le cas de beaucoup de paysans aujourd'hui qui doivent changer leur modèle de production, qui n'arrivent plus à vivre. Mais il y a un moment pour, dans l'idéal, où justement l'autonomie se commue en attestation, pour reprendre l'expression de Ricoeur, c'est-à-dire qu'elle est l'expression de ce en quoi je crois et du monde dans lequel je veux vivre. Et elle dessine alors un moment, elle est un moment pour et elle dessine un projet de société inclusif qui peut accueillir tout le monde.
Une autonomie, Corinne Pelluchon, qui est débarrassée également des pesanteurs de l'inconscient. Vous avez quelques pages sur Freud aussi, parce que dire qu'on est autonome, dire que l'on est libre, veut dire que l'on est aussi libéré du poids prédominant. Capitale de l'inconscient.
Si possible. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Mais en tout cas, c'est une autonomie qui prend la mesure de l'opacité de chacun à soi-même. Du fait que, effectivement, il y a quand même cette opacité, mais il y a aussi un effort pour se libérer des déterminismes et essayer de ne pas sans cesse prisonnier des problèmes des autres, ou de ne pas reconduire la domination qu'on critique. Ce que je reproche à certains mouvements actuels des postmodernes, féministes et postcoloniaux, c'est de reconduire la domination qu'ils dénonçaient, ou qu'elles dénonçaient, et en opposant les noirs aux blancs, les femmes aux hommes, ce qui est quand même un gros problème, et en assignant d'ailleurs chacun à son genre, ou à ses origines, ce qui est quand même une contradiction.
Vous n'allez pas vous faire des amis en disant ça?
Non, parce que moi, je prends la mesure de tout ce que nous ont donné les postmodernes. Leurs critiques doivent être prises au sérieux. Et sont vraiment, les féministes, c'est plus qu'une revendication d'égalité homme-femme. Ça a changé la philosophie politique en profondeur, car elles ont pointé l'incapacité des outils classiques, même du grand Rawls, à promouvoir une société vraiment inclusive. Il n'a pas vu que les principes de justice étaient bien beaux, mais que la société n'était pas neutre du point de vue du genre. Et que dire que chacun a accès au même poste, c'est bien beau, mais la double journée des femmes, mais les préférences induites et les dominations pèsent sur les personnes et font que les minorités, les femmes, bien souvent, ne sont pas elles-mêmes allées vers des postes à responsabilité. Donc les féministes ont pointé tout ce qui manque, tout ce qu'il faut faire en amont pour que le projet des Lumières d'égalité et de justice soit vrai. Donc on leur doit énormément. En plus, on leur doit beaucoup dans notre vie de tous les jours. Tous les matins, il faut se lever en remerciant le ciel, pour ainsi dire, d'être né dans un pays où il y a les droits de l'homme et où les femmes ont conquis des droits qui sont toujours fragiles. Donc moi, je suis en ce sens-là, si vous voulez, féministe. Mais je trouve que la manière dont aujourd'hui le féminisme d'émancipation a donné naissance à un féminisme d'opposition homme-femme est tout à fait regrettable.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
Alors Corinne Pelluchon, vous établissez un lien entre cette notion d'autonomie et la démocratie. C'est aussi un autre aspect de votre livre.
Oui, suivant cela, le grand Castoriadis, philosophe, psychanalyste fondamental.
Castoriadis qui disait ceci: la création du projet d'autonomie, l'activité réflexive de la pensée et la lutte pour la création d'institutions autoréflexives, c'est-à-dire démocratiques, sont des résultats et des manifestations du faire humain. dû faire. Bien.
Oui, c'est-à-dire que la démocratie, c'est toujours... elle est à faire. Voilà, exactement. Claude Lefort, son ami, disait qu'elle est sauvage. J'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'on prend conscience du fait que on institue le sens. Dans mon langage, même si le schème de la domination nous aliène, n'empêche que nous l'avons institué, nous avons laissé faire. Et du coup, ça veut dire qu'on peut destituer les choses. Et puis, c'est aussi l'idée du pluralisme. La démocratie, c'est pas l'idée d'un peuple comme unité a priori figée d'avance, c'est l'idée qu'il y a une ouverture. C'est toujours à négocier. Et alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aussi... penser les transformations actuelles de la démocratie, pas seulement à la lumière des grandes théories délibératives et participatives d'Habermas et tant d'autres, mais aussi en pensant justement, en renonçant à l'idée, à l'idéal cher aux Lumières du XVIIIe, d'une unité a priori, d'une volonté générale à la Rousseau qui serait déjà là. Moi, je pense que nous formons non pas un peuple a priori, mais des publics disséminés. Et qu'il faut que ces publics qui rencontrent, qui vivent de manière hétérogène les problèmes liés au réchauffement climatique, à la mondialisation, il faut qu'ils s'expriment, mais qu'ils se connaissent entre eux. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui confisque le bien commun et impose son récit. Donc il y a à faire de la démocratie une méthode et à faire en sorte qu'elle puisse rendre possible l'expression de ces divers publics, qu'il y soit possible de faire un état des lieux des différents problèmes vécus de manière hétérogène et que l'État en prenne compte au lieu de répondre de manière technocratique et décontextualisée aux problèmes qui donnent lieu après à de la contestation. Et puis qu'il y a aussi au niveau local toutes ces expérimentations et ces innovations importantes, elles inspirent des politiques publiques, mais qu'il y a aussi une articulation entre le local et le vertical. Et donc ça, ce sont des pistes pour penser la manière dont on peut conduire un projet commun ou l'instituer pas à pas. Et c'est tout à fait important, si on veut faire de la question de la transition écologique, non pas un simple fardeau, mais un projet stimulant, et qu'il ne soit pas imposé par la coercition, mais qu'il prenne appui sur l'autonomie des acteurs.
Car justement, la démocratie dépend de nous, en quelque sorte. Castoriadis, qui aimait citer Thucydide, il me semble, qui disait « Il faut choisir se reposer ou être libre ».
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. La démocratie, c'est comme les Lumières, c'est un projet toujours inachevé et à compléter. Mais ce que j'ai voulu dire aussi dans ce livre, c'est que les Lumières que je présente, qui sont de nouvelles Lumières, puisqu'elles ont destitué, cherchent à destituer le dualisme nature-culture, sont des Lumières radicalement écologiques. C'est-à-dire, au sens où l'écologie...
Vous parlez de la force émancipatrice de
exactement.
L'écologie.
C'est-à-dire l'écologie n'est pas seulement liée au réchauffement climatique et à l'érosion de la biodiversité, elle impose un remaniement intellectuel, moral, psychique sur la place de l'humain dans la nature et ses relations aux autres vivants. Et elle impose aussi des restructurations économiques ou des restructurations importantes en tout cas pour justement organiser autrement les modes de production, ne plus calquer l'agriculture et l'élevage sur l'industrie, pour penser le travail autrement et évidemment se répartir non seulement les richesses, mais aussi les fardeaux de la pollution, de la dépollution. Donc du coup, comme manière d'habiter la Terre autrement et de cohabiter avec les autres humains et non humains, là c'est l'axe, vous voyez, l'écologie en ce sens-là, elle décolonise notre imaginaire. Elle nous oblige à sortir d'un rapport de prédation aux autres vivants, d'un rapport d'exploitation des autres vivants et des humains, et elle suppose cette épopée civilisationnelle dont je parlais, au niveau donc collectif et individuel.
C'est ce que vous appelez, Corinne Peluchon, décentrer la démocratie.
Décentrer la démocratie, c'est plutôt au niveau de l'organisation d'une société, comment faire en sorte que les publics se connaissent, dialoguent entre eux, pour justement qu'ils changent leurs lunettes eux aussi, qu'ils soient pas seulement des îlots éthiques, certains sur la question d'Alzheimer, d'autres sur la question des taxes carbone, d'autres, voyez, parce que la démocratie, c'est négocier des accords sur fond de désaccord et personne ne doit confisquer le bien commun. Il y a l'idée de répondre à des problèmes qui sont vécus différemment sur les territoires, on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais il y a l'idée que l'État, évidemment, a des lois, des normes qui comporte cette dimension de généralité, mais qu'il s'agit aussi d'apporter des réponses et de réparer, de réguler. Hein. Le rôle régulateur de l'État, notamment pour l'économie et le marché, est important et essentiel, notamment aujourd'hui. Mais il y a ce travail aussi sur les échelons et sur l'articulation du local et du national, voire européen. Et c'est vrai qu'au niveau de l'agriculture, des questions de production, le niveau local est important. Mais il ne suffit pas. Il faut vraiment, tout peut pas peser sur les épaules des individus ni sur les locales. Le local, il faut aussi que l'État réaffirme sa mission au lieu d'être au service des multinationales.
Vous écrivez, Corinne Peluchon, répondre comme la plupart des dirigeants des oligarchies libérales que nous devons nous adapter à l'ordre économiste comme à une fatalité signifie que l'on a abandonné le projet et l'ambition des Lumières. Est-ce que la crise que nous traversons depuis maintenant plus d'un an, n'est pas le début d'une prise de conscience du poids du politique par rapport à l'économie?
Moi, je pense. Je pense que, alors, cette crise est horrible pour plusieurs raisons, mais il y a quand même, de la part de nos gouvernements, en tout cas dans nos pays européens, parce qu'on est, y a pas tous les pays font pas comme ça, hein, on oublie de le dire, au Liban, en Argentine, il n'y a pas les aides qu'il y a ici.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais je pense que les gouvernements prennent conscience du fait qu'on ne peut pas abandonner certaines sphères d'activité à la dérégulation du marché. L'agriculture, les médicaments, que aussi il y a des réponses qui doivent être trouvées avec les collectivités et au niveau local. Et puis il y a quand même, donc il y a une forme de gouvernementalité qui devrait s'inventer, peut-être moins verticale. Bon, c'est pas évident dans un pays très centralisé comme la France, mais il y a quand même une réflexion. Et puis quand même, la question écologique s'est invitée au cœur des débats. Alors, on peut toujours critiquer, on peut toujours dire que ça va pas assez vite, c'est vrai, mais quand même, c'est là. Donc, moi, j'ai un peu d'espoir. Et puis, au niveau européen, faut jamais oublier qu'alors qu'en 2008, l'Europe avait joué chacun pour soi, chaque pays, ici, il y a eu, cette fois-ci, il y a eu une réponse solidaire au niveau de cette dette commune. Au niveau des vaccins, c'est pareil, c'est plus le chacun pour soi. Donc, ça, c'est quand même un signe positif.
Il faut être optimiste et penser que c'est le début d'un nouveau cycle après le cycle libéral, le néolibéral. Peut-être que nous entrons dans un nouveau cycle.
Alors, je ne si on peut être aussi optimiste. En tout cas, nous avons les moyens.
J'essaie de l'être de temps en temps, malgré tout.
Disons que nous avons les moyens. Oui. Nous avons les moyens et le devoir de le faire. C'est le moment. Et ce serait vraiment le moment critique, parce que sinon, on va avoir d'autres pandémies, sans doute pires. Et tout un tas de zoonoses et de problèmes sanitaires.
Alors, il y a l'économie, mais il y a aussi la technique. Votre livre est aussi une réflexion sur la place de la technique, sur ce que vous appelez la sacralité de la technique.
Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a un autre dualisme qu'il faut dépasser. Pas seulement nature-culture, mais technique-culture. La technique est une condition de notre existence, même un existentiel, je dis une structure d'existence. D'ailleurs, la plupart du temps, les relations que nous avons avec autrui passent par le biais des techniques. Mais évidemment, souvent, cette externalisation de la technique, comme disait le regretté Bernard Stiegler, entraîne une aliénation parce qu'on ne sait pas servir des techniques. Donc du coup, il faut que nous ayons une culture nous permettant d'utiliser les techniques à bon escient et d'éviter d'avoir quand même de la réflexivité, alors que notamment l'ère digitale, les réseaux sociaux, tout ça, nous conduisent à être plutôt dans l'impulsivité et pas dans la réflexivité. Donc tout ça, ça demande un travail. Et puis enfin, il y a l'idée d'orienter les technologies vers des fins civilisationnelles, et il faut faire la grève de certains produits, pour parler comme Günther Anders, que j'adore, qui se pointait le fait que la société dans laquelle on était avait rendu possible la bombe atomique et que la bombe atomique changeait tout dans la politique et transformait tout en une guerre larvée.
Alors, en revanche, il y a un domaine de cette technique médicale, domaine de la recherche qui vous inquiète, c'est le transhumanisme. Vous avez commencé d'ailleurs à en parler au début de l'émission.
Oui, le transhumanisme, on présente souvent ça comme un héritage des Lumières, du progrès. Pour moi, ce sont vraiment des anti-Lumières. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de prôner l'autonomie, on rive l'individu à son corps technologiquement façonné, donc à son équipement. S'il a été transformé avec des puces, il est plus fort que d'autres, etc. Deux,
immortel.
C'est pas une société d'ego qu'on veut promouvoir, mais une société à deux vitesses, avec des êtres qui seront plus forts, équipés, puis d'autres qui seront comme nous, normaux, c'est-à-dire à la traîne. Trois, c'est pas une société démocratique. C'est pas, et il n'y a pas l'idée que nous prenons en main notre destin, puisque l'avenir n'a plus besoin de nous, et c'est la technologie, dans le mythe de la singularité, qui a déjà finalement arrêté l'histoire. Et puis c'est une rationalité qui est plutôt qui confine à la mythologie. Donc les quatre piliers des Lumières et la forme des Lumières liée à cette réflexivité dont je parlais tout à l'heure, et cette idée de prendre en main son destin, sont complètement niés. Donc le transhumanisme est précisément, non pas un désaveu des Lumières, mais une anti-lumière. L'expression même des anti-lumières et d'un projet de société qu'à mon avis il faut combattre. Et en plus, c'est lié à une haine du corps. C'est lié à un mépris de la corporéité. Et voilà, donc pour moi, c'est très très clair. J'essaie de le dire...
Surtout que vous écrivez qu'il faut penser l'humain comme un être corporel, engendré, mortel, vulnérable. Ce que les transhumanistes nient totalement.
Trouvent dégoûtant, quoi.
Oui.
Notamment, moi, je dirais que dans le transhumanisme, il y a peut-être moins une peur de la mort ou une volonté de défier la mort, parce que ça, on pourrait comprendre, qu'un dégoût de la naissance, de l'indétermination. Parce que nous sommes tous des êtres absolument imprévisibles, indéterminés, et la naissance, c'est cela. Et c'est pour ça qu'Hannah Arendt disait qu'elle était si importante au niveau politique, car elle impliquait le pluralisme, le fait que, et aussi la nécessité de faire de la place à des êtres jeunes, imprévisibles, qui ont aussi la possibilité de changer, de renouveler le monde commun.
Alors Corinne Peluchon, dans ce livre que je trouve magnifique, Les Lumières à l'âge du vivant, cette réinvention des Lumières... dans le 21e siècle, vous terminez d'ailleurs le livre avec ça, vous consacrez une place importante à l'Europe.
Oui.
Pas l'Europe en tant qu'institution, mais l'Europe comme état d'esprit.
Oui, je reprends ça encore une fois à Husserl, les grands maîtres comme Husserl, on ne les oublie pas. C'est-à-dire que l'Europe, il faut la désubstantialiser, elle n'est pas liée à ce continent, mais elle a un message qu'il s'agit de réactiver et qui a été oublié à la fois à l'extérieur de l'Europe et à l'intérieur, parce qu'on a tous pris davantage la technoscience et le marché. Or, l'Europe, dit-il, c'est Socrate, c'est le message socratique, c'est l'idée de la réflexion, l'autonomie, donc des Lumières, l'idée de la problématicité du monde, la lutte contre le dogmatisme, et l'idée qu'on peut s'émanciper, qu'on doit s'émanciper, que c'est un travail, et que ça ouvre un horizon d'espérance qui peut parler à des peuples qui, encore aujourd'hui, souffrent du joug de la tradition. De certaines traditions. Et du coup, je pense que c'était aussi l'idée chez Husserl, dans ce texte magnifique de 35, à un moment où, plein nazisme, c'est l'idée de sauver le rationalisme. Le rationalisme, c'est pas cette espèce de scientisme, de réductionnisme qui nous a conduit à l'ère de la quantification, c'est, il n'est pas séparé, justement, du monde de la vie, de sa dimension morale, de la réflexion sur le sens et sur les finalités que nous assignons à nos existences individuelles et collectives. Et donc, du coup, il ouvre un horizon d'espérance, là. Et moi, j'essaie, si vous voulez, d'articuler, parce que souvent, l'Europe, on la pense à travers ses institutions, qui sont très exigeantes, transnationales. On oublie tout ce que cela exige, son ethos, et on oublie aussi ses finalités, qui étaient de faire la guerre à la guerre, qui étaient de prendre en compte le passé meurtrier.
Oui, justement, parce que certains diraient, oui, mais l'Europe, c'est aussi le territoire où il y a eu deux guerres. Ô combien sanglante.
Et justement, n'est-ce pas cela qui peut justement ce sens du tragique? Mes Lumières sont, et l'humanisme que je défends est un humanisme blessé, tragique. Auschwitz, Hiroshima, les goulags, les crimes coloniaux, ne jamais oublier la destructivité dont l'homme est capable et qui s'exerce, à mon avis, aujourd'hui avec les animaux. Mais justement, prendre en compte cette problématicité du sens, le fait que on n'a jamais la vérité absolue, qu'il faut la chercher, démultiplier le réel, eh bien, mais quand même qu'il y a des principes qui sont importants. La liberté, la démocratie, l'égalité morale de chaque être, l'unité du genre humain, une seule planète, une seule condition humaine, et une diversité des cultures. Non-racisme, non-fascisme, et faire la guerre à la guerre, parce qu'aujourd'hui, ce que Rousseau n'avait pas, ni Kant, qui pourtant écrit des magnifiques traités de paix, eh bien, nous avons la bombe atomique, et nous avons des armes biochimiques qui fait que c'est pas possible de jouer des politiques de puissance, comme le font justement la Chine, la Russie, les États-Unis. L'Europe peut être, à condition qu'elle prenne en compte son telos, sa finalité et son message socratique, elle peut s'imposer sans rien imposer et être une politique de la considération, mais évidemment ça suppose de donner un contenu politique à son projet qui pour moi est lié à la considération mais aussi le projet d'une société écologique.
Est-ce que cette Europe politique cette fois n'est pas en train de réaliser petit à petit ce que vous préconisez finalement, cette nouvelle acceptation de cette notion de lumière, et est-ce que ce n'est pas non plus pour elle une faiblesse par rapport au reste du monde qui lui ne connaît plus que jamais que les rapports de force?
Alors, il y a encore des rapports de force dans l'Europe.
Au sein de l'Europe, certes.
Au sein de l'Europe.
Une Europe pas toujours unie.
Voilà, et puis... Non, il y a un modèle très intéressant de politique en Europe qui faisait dire à Camus que c'est la pensée de midi qui allie les contraires, flexibilité et en même temps radicalité, etc., principe qu'on maintient et ouverture. Mais l'Europe, elle a fait quelques petits progrès là et elle est une chance parce que les politiques de puissance à notre époque peuvent conduire à l'extinction. Il y a quand même l'arme nucléaire a tout changé. Günther Anders le dit bien. Et la guerre économique entraîne la misère. La misère sociale fait le lit du fascisme. Donc, je pense que l'Europe n'a pas tenu toutes ses promesses. Elle n'a pas été fidèle à cet héritage que le grand Husserl et son fils spirituel Patochka, qui lui savait ce que c'était que de mourir pour les droits de l'homme.
Opposant tchécoslovaque.
Absolument, ouais. Qui en est mort. Donc du coup, je crois que vraiment, mais aujourd'hui, vous voyez des gens aussi distingués, forts, plus grands philosophes sans doute existants aujourd'hui, Habermas. C'est très bien ce qu'il dit sur l'Europe, mais je trouve qu'il s'en tient seulement aux institutions. Le nomos, la constitution européenne, ça donne pas le désir d'Europe. Moi, ce que je veux donner, c'est un corps à l'Europe, une chair. C'est lié à la transition écologique, au vœu de bâtir cet âge du vivant dont nous avons des signes avant-coureurs. Je crois, comme par exemple le souci des jeunes pour l'écologie et les animaux, qui sont, pour moi, ces lumières à l'âge du vivant peuvent être la chance d'un nouveau contrat social et d'une Europe. Alors après, moi, je ne suis que philosophe, c'est-à-dire que j'ai aucun pouvoir, à peine une influence.
J'aime bien que le « que philosophe », ce qui est déjà énorme, ouais, Corinne Peluchon. Mais est-ce que les choses, encore une fois, j'essaie d'être optimiste, ne sont pas en train d'évoluer dans le sens que vous préconisez, c'est-à-dire le respect des animaux, le respect des individus, le respect des femmes. Est-ce que tout ça, ce n'est pas en train de changer, mais profondément?
Oui, il y a un âge du vivant qui se dessine, et c'était mon ambition de lui donner une armature cohérente, intellectuelle, et qui fait le lien entre tous ces sujets. Maintenant, il y a des forces contraires très puissantes. Les lobbies,
les antilumières, sont
les antilumières qui se font entendre, et puis aussi la compétition qui est partout, le schème de la domination qui continue partout, dans toutes les relations, et dont nous souffrons tous. Et dont moi je souffre terriblement aussi. Donc, et le massacre quotidien des animaux. Donc, moi je pense que de mon vivant, je verrai pas les progrès que j'aimerais voir. Mais on est à la croisée des chemins. Nous pouvons nous mettre sur une trajectoire nouvelle. Et moi j'ai fait tout mon possible pour dessiner cette trajectoire.
De toute façon, nous n'avons pas le choix.
Je crois que nous n'avons pas le choix.
Merci Corinne Peluchon, il faut lire absolument votre livre qui s'intitule « Les Lumières à l'âge du vivant ». Il est publié aux éditions du Seuil dans la collection L'Ordre philosophique. Et je salue votre réflexion de longue haleine autour de ces questions et j'attends déjà le prochain livre. Je vais vous laisser l'écrire.
Ça mettra un petit peu de temps.
Merci Corinne Peluchon. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez-nous également sur le site de la radio, à la rubrique podcast ou sur votre moteur de recherche préféré. Nous vous donnons en tout cas rendez-vous dimanche prochain à 15h10 temps universel, 17h10 à Paris, pour le début d'une nouvelle saison d'idées. Dans un instant, un journal sur RFI. RFI, la sélection.